Bonjour à tous les gens qui nous écoutez un peu partout dans le monde. Je vous souhaite bien sûr que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège en abondance. Je sais que les moments sont difficiles actuellement avec tout ce qui peut se passer dans le monde. On parle bien sûr de la crise du coronavirus, le COVID-19. Et j'en profite pour vous exhorter, vous encourager à ne pas vous relâcher, à persévérer, à toujours garder les yeux vers Jésus et puis persévérer dans la prière. C'est vraiment l'appel que Dieu nous a lancé depuis le début. Vous savez, lorsqu'on regarde dans 1 Pierre, il est écrit « La fin de toute chose est proche ». Alors, vous savez, frères et sœurs en Christ, que la fin de toute chose est proche, eh bien, il n'y a pas de parole équivoque qui permette de traduire ça autrement que la fin de toute chose est proche. Et c'est un fait. Et j'en profite pour vous dire que, à tous ceux qui nous écoutent présentement, que cette fin en soi, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin du monde tel qu'on le connaît. Parce qu'après tout ça, il va avoir un autre monde. Il va avoir une nouvelle Jérusalem. Il va avoir, bien sûr, la vie dans le ciel, la vie éternelle avec Dieu et pour ceux qui n'auront pas cru, la vie éternelle avec Satan. Alors, de là ressort l'idée centrale, l'idée principale de dire « Veillez, priez » afin de ne pas entrer dans la tentation au jour, bien sûr, de la détresse. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a derrière moi des bruits. Vous allez entendre toutes sortes de choses pendant ce court message. Parce que vous savez que moi, depuis 8 ans, je suis en Haïti. Et puis ici, en Haïti, les choses sont bien différentes de ce qui peut se passer au Québec, au Canada et puis tout partout dans le monde. Parce que ici, les gens bougent. C'est très difficile de respecter des consignes comme vous avez, vous. Au Canada et au Québec, entre autres, comme la distanciation sociale, rester confiné dans la maison, c'est un truc qui n'est pas évident ici en Haïti. Moi, j'ai le privilège d'avoir, avec mon épouse, un endroit où rester, où est-ce qu'on peut se confiner, se protéger. Mais tout ça, c'est une grâce de Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas monnaie courante pour tout le monde. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés, beaucoup de misère, beaucoup de peur ici en Haïti. Et imaginez donc la détresse que vous-même vous vivez déjà dans vos pays occidentaux organisés et riches. Imaginez ici comment est-ce que les gens, sans le verbaliser, peuvent se sentir. Alors, heureusement, que ces gens, pour la plupart, ont une foi indestructible. J'ai été témoin ici de rassemblements dans des églises où est-ce qu'on peut vraiment voir des gens en feu. Des gens qui expriment leur désir, qui expriment leur amour pour Dieu. Évidemment, comme dans toute église, il y a des gens qui parfois sont un peu peut-être des comédiens, bien évidemment. Peut-être que le style musical, le style de louange que nous avons dans les pays, ici en Haïti comme en Afrique, n'est pas le même genre que ce que vous connaissez dans les pays occidentaux, les pays industrialisés, et c'est bien normal. Et Dieu nous a tous fait différents pour une raison, c'est que justement, c'est pour que la louange puisse fonctionner 24 heures sur 24, l'adoration de même, de différentes façons, parce que tout ça, eh bien, doit originer du cœur, doit venir du cœur, de l'esprit, adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça que Dieu recherche d'abord. Donc, le message que j'ai aujourd'hui, c'est un message que j'ai reçu hier soir. Alors, je dois vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Parce que à un moment donné, j'étais sur un forum sur Facebook et je lisais le post d'un pasteur qui disait « Non, mais sommes-nous rendus dans la grande tribulation? » C'était sa question et tous les gens se sont mis à répondre. Ça a créé un gros débat. Certains disaient oui, nous sommes arrivés, d'autres disaient non, parce qu'il faut d'abord que l'Antéchrist se manifeste, et ceci, cela, et patati, patata. Bref, grosse discussion doctrinale sur la façon d'interpréter l'Apocalypse, qui est un livre déjà très complexe, très compliqué, et qui demande une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir vraiment faire une traduction qui est fidèle à la pensée que l'apôtre Jean avait lorsqu'il a reçu ce message et qu'il l'a écrit. Alors moi, ce que j'ai retenu de ce forum que j'ai lu hier, je ne vais pas entrer dans les discussions doctrinales sur le fait est-ce que l'Antéchrist doit se manifester avant ou après, est-ce que la marque de la bête sera au milieu ou à la fin, j'ai mes propres opinions, ou est-ce que l'enlèvement sera avant la grande tribulation ou pas, je ne vais pas embarquer dans ces choses-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'une sœur a soumis un truc très intéressant sur ce forum. Elle a écrit comme ça que non, avant ça, il doit avoir un réveil. Et ça, cette phrase que la sœur a écrite est venue vraiment me toucher. C'est venu me chercher, mais pas pour les raisons que vous croyez. Ce réveil dont elle parle, c'est le réveil religieux qu'on nous enseigne dans toutes les églises. Qu'il doit y avoir un réveil sur toute la planète Terre, que tous les gens qui ne croient pas, pour une grande partie, vivront un réveil, vont donner leur vie à Dieu. On voit des publications sur Internet comme ça, que des milliers de gens se sont fait baptiser dans les eaux pour accepter Jésus, tout ça. C'est vraiment une belle chose, c'est vraiment un réveil qui est extraordinaire. Mais le réveil le plus important actuellement avec ce qui se passe, et moi c'est ce que j'ai reçu hier, c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu est venu m'inspirer. Outre ce réveil, le réveil principal qui doit se faire actuellement, eh bien, il est pour nous l'Église. Je sais, vous allez dire, bon, encore. Mais sachez que avant même de vous dire ces paroles, j'ai fait mes recherches. Et l'Église, oui, l'Église doit absolument se réveiller à la léthargie, car l'Église actuellement est dans le coma et la léthargie spirituelle. L'Église, les fidèles, les pasteurs, les anciens, se sont laisser envahir et prendre dans le piège de la complaisance, le piège du bien-être, le piège d'apprécier là où ils sont sans plus, c'est-à-dire apprécier les moments passés avec les frères et sœurs, les rassemblements à l'église, la louange, la musique à l'église, le sermon du pasteur pour ceux qui sont capables de durer un minimum de 45 minutes, vraiment concentrés sur le message du pasteur et vraiment retenir ce qu'il a dit et non pas être un auditeur oublieux. L'Église a vraiment besoin de se réveiller et ce qui arrive actuellement est un message, oui, pour toute l'humanité, mais est un message aussi pour l'Église en elle-même. Et si on va dans Apocalypse, vous savez qu'au début d'Apocalypse, il y a les sept églises qui sont citées. Et sur les sept églises, la grande majorité des églises reçoivent tous un reproche de Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a un message à retenir de ça. Si sur cette église, il y en a cinq qui reçoivent un reproche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans l'église passée, mais aussi actuelle. Et ce qui se passe actuellement, c'est un message que Dieu nous envoie à tous, à tous les hommes, mais aussi à nous les fidèles, à nous les chrétiens, à nous les pasteurs, les anciens. Réveillez-vous! Réveille-toi, toi qui dors. Allons dans Apocalypse. L'église d'Éphèse. L'Éternel dit comme ça, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as éprouvés, tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Alors ça veut dire, frères et sœurs, que cette église avait un fonctionnement quand même très bien. Cette église, l'église d'Éphèse, on parle de ses œuvres, de son travail, de sa persévérance. Dieu félicite cette église. Mais Dieu dit aussi, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Wow! Ça, c'est l'église d'Éphèse. Je ne vais pas citer les églises qui n'ont pas de reproches, parce qu'elles sont très peu nombreuses. L'église de Pergame. Dieu dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende. Ça, c'est l'église de Pergame. Vient ensuite l'église de Thyatire. Dieu dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Waouh, mais c'est génial d'entendre des paroles comme ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Faire de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. L'église de Sardes. L'église de Sardes a un seul petit reproche, mais elle a quand même un reproche. Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour un être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est puissant. C'est puissant. Évidemment, je ne cite pas tout, mais bon. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, et repens-toi. Voyez-vous, l'Église actuelle est un mélange de toutes ces églises. Pour la plupart, toutes ces églises que j'ai mentionnées qui ont un reproche, eh bien, nous représentent, nous, actuellement, aujourd'hui même. Parce que l'Église s'est détournée de Dieu. L'Église a abandonné son premier amour, s'est détournée de Dieu, a délaissé la vraie doctrine, la parole pure, les prédications, oui, dures, qui écorchent, qui font mal, mais qui redressent aussi. Dieu a dit, je persécute mes enfants, je reprends mes enfants parce que je les aime. Et même dans la Bible, il est écrit, je sais que maintenant, à notre temps, ce n'est pas un truc qui est vraiment très, très populaire. Mais lorsqu'il est écrit, reprends ton enfant, OK? On donne la façon de reprendre son enfant. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous, mais d'une autre façon. Et Dieu dit alors aux églises, maintenant avec ce qui se passe, repentez-vous, car je reviens bientôt. Veillez, priez, mettez de l'huile dans vos lampes. Retirez-vous de votre complaisance. Retirez-vous de vos mauvaises voies, parce que oui, frères et sœurs en Christ, il y a des mauvaises voies, il y a des mauvaises actions commises dans les églises maintenant. Les églises se sont détournées de Dieu pour la plupart, sans se détourner complètement. Mais simplement le fait de détourner le regard, déjà là, c'est déjà un très, très gros problème pour l'Église. Beaucoup d'églises ont cessé de prêcher la croix, de prêcher la repentance, le salut. Beaucoup d'églises ont laissé Jésus derrière, assis sur les bancs derrière. Beaucoup d'églises ont plus encore laissé le Saint-Esprit à la porte dehors, la porte bien fermée. Pourquoi, frères et sœurs en Christ, croyez-vous que il y a de moins en moins de manifestations dans les églises? Il y a de moins en moins de guérisons, de moins en moins de révélations, de moins en moins de visions, de moins en moins de songes, de moins en moins de prophéties, de moins en moins de messages inspirés de la part des pasteurs, qui pour beaucoup nous arrivent avec des messages structurés, étudiés, écrits. Ils ont passé une semaine sur ce message, souvent pour arriver le dimanche et nous donner cette nourriture extraordinaire. Ils ont travaillé fort, ils ont prié des messages extraordinaires. Mais là, on parle de messages du Saint-Esprit. Où est-ce que un homme de Dieu, un pasteur, un frère, peu importe, part et s'en va, et le Saint-Esprit descend sur lui, et là, le message part. Comme on dit, la cassette démarre. Il n'y a aucune préparation. Il n'y a aucun message, aucune recherche qui a été faite, aucune lecture d'un sermon ancien avec un autre, rien de ça. Simplement un message de Dieu, comme dans le temps des prophètes, comme dans le temps de Samuel, comme dans le temps d'Ésaïe, comme dans le temps de Jérémie, comme dans le temps de Daniel, comme dans le temps de Esdras, Agée, Joël, Malachie, Zacharie. Où est-ce que Moïse? Où est-ce que Dieu arrivait et parlait à quelques-uns d'entre eux, et ces personnes livraient un message inspiré de Dieu avec la parole, la puissance, l'éloquence de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ce réveil pour nous, c'est évidemment l'idéal serait de tous descendre dans les rues et de crier à tue-tête, comme le dit Ésaïe 58, crie à plein gosier. Ce serait vraiment l'idéal, mais je sais que nous ne sommes pas tous faits pour ça. Nous n'avons pas tous cette vocation, nous n'avons pas tous cet appel. Mais l'appel que Dieu a pour nous, eh bien cet appel, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'aller vers son prochain. Et je ne le redirai jamais assez. Tellement il y a de gens qui ont des besoins à l'extérieur. C'en est triste, épeurant, désolant. Dieu nous appelle à aller vers ces gens. Les églises sont, comme je l'ai dit, sont tombées dans la complaisance. Beaucoup sont tombés aussi dans le compromis dans leurs assemblées. Maintenant, il y a des assemblées qui ne ressemblent plus à des assemblées d'antan. Mais ce sont des assemblées qui sont complètement dénuées de toute puissance. Il y a un semblant de puissance. Il y a de la belle louange, la musique, des sons, des ci, des ça, les gens qui louent. Mais ne vous faites pas prendre au piège, parce que la vraie puissance de Dieu va se manifester par nous-mêmes, l'Église de 2020, en allant vers les gens à l'extérieur, les supporter, les aider, les réconforter, leur apporter notre aide, quelle qu'elle soit. Et laissez-moi vous dire qu'un témoignage comme cela, une action comme cela, a un témoignage encore plus puissant que d'aller dans la rue. Je ne dis pas qu'un message prêché dans la rue n'a pas de puissance. Mais le contact personnel d'aller vers une personne en particulier, de mettre sa main sur son épaule et dire « Hey, regarde, je suis là. Si je peux t'aider, dis-moi ce que je peux faire pour toi. » Et aider vraiment cette personne. Cette personne nous demande quelque chose dans la mesure de nos capacités. Eh bien, c'est de l'aider. Ce n'est pas de dire ensuite, eh bien, je vais prier pour que Dieu t'envoie quelqu'un. Non, c'est toi-même que Dieu envoie. C'est toi-même que Dieu envoie. Alors, il faut que nous sortions de cette léthargie, que lorsque nous sortons dehors et que nous voyons un malheureux qui souffre, qui est en détresse, qui a des problèmes, ou encore même qui ne semble pas avoir de problème, c'est d'être à l'affût, à l'écoute de ces choses et d'aller voir les gens, de ne pas se gêner, d'apporter à celui qui a faim à manger, à celui qui est nu de lui apporter des vêtements, ainsi de suite, comme nous dit Ésaïe 58 justement, et de cesser de pratiquer simplement pour l'apparence, de pratiquer notre foi. C'est pas ça. La foi sans les œuvres est une lettre morte. C'est d'aller vers la veuve, l'orphelin, l'opprimé, de dire, voici, tiens, je t'ai apporté ça. Que Dieu te bénisse. Moi, à chaque fois que je suis sur la rue, que quelqu'un tend la main et que je lui tends de l'argent, maintenant, à cause du coronavirus, je ne mets plus ça dans sa main. Mais auparavant, je prenais la main de la petite madame, comme on dit en québécois. Je refermais mon autre main par-dessus et je disais, mais bon Dieu bénis-vous en pile. Ce qui veut dire, tenez, que le Seigneur vous bénisse, soit béni par cette offrande. Cette offrande peut être de l'argent, de la nourriture, des vêtements, de l'aide physique, matérielle, peu importe. Mais lorsqu'on fait un geste comme ça, ces gens-là, même s'ils ne croient pas, deviennent touchés et on vient d'ouvrir une porte à l'évangélisation plus profonde, plus personnelle avec ces personnes. Si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera un autre chrétien qui va aller, qui va passer et qui va le faire. Comme l'apôtre Paul a dit, alors que les gens se chamaillaient à savoir « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », il a bien dit que tout ça n'a aucun rapport. C'est Dieu qui arrose et qui fait croître. Alors, Paul plante, Apollos, Apollo si vous préférez en québécois, Apollo fait le reste, referme la terre par-dessus la semence, mais c'est Dieu qui arrose et qui fait croître. Alors, toute la gloire doit revenir à Dieu. Et justement, cette gloire, il y a des gens qui disent que, bon, actuellement, le coronavirus, c'est un virus qui est envoyé par des pays. Ils veulent mettre des trucs dans des vaccins, des marques de la bête, la puce dans les vaccins. Arrêtez-moi ces foutues conneries et prêchez donc la vraie évangile. La vraie évangile ne consiste pas à suspecter le mal. La Bible dit très bien, l'amour ne suspecte pas le mal. Alors, lorsqu'on commence à dire des choses comme ça, plutôt que de donner gloire à Dieu, on donne gloire à l'ennemi. On fait de la place à l'ennemi pour diviser encore plus le discours. La Bible dit, marchez d'un seul et même esprit, ayez un seul et même discours. Ce discours, c'est l'Évangile. Ce discours, c'est la Bible. Ce discours, c'est le témoignage de Dieu que l'on doit apporter aux gens. En aidant notre prochain, en aimant notre prochain, comme le Samaritain a fait lorsqu'il a ramassé celui qui avait été battu, laissé pour mort, alors qu'il y a eu des pharisiens, des lévites qui ont passé et d'autres qui ne se sont pas arrêtés sur leur chemin pour diverses raisons. Ne soyons pas comme eux, mais réveillons-nous. Réveillons-nous afin que Dieu ne retire pas notre chandelier, afin que Dieu ne nous surprenne pas comme un voleur. Et puis, à ce moment-là, lorsque Dieu viendra, il trouvera une église en puissance, en action, une église qui aura vraiment la foi, parce que Jésus a dit, « Vais-je trouver la foi lorsque je viendrai sur la terre? » Alors, rappelez-vous une chose, vous pouvez dire que vous avez la foi. Mais la foi sans les œuvres n'est rien. La foi est des œuvres ponctuelles, structurées, prévisibles, comme on voit actuellement dans les mouvements d'organisation dans les églises, de dire, bon, à chaque mois, on envoie tant dans une école en Haïti, en Afrique. On fait ceci, on fait ça, on achète des sacs, des kits d'école pour les écoliers de notre quartier à chaque automne. C'est pas des œuvres de la foi, ça. Ça, c'est une action, c'est une bonne action. Mais c'est prévu, c'est structuré, c'est pas spontané. L'œuvre, la vraie œuvre, c'est lorsque c'est spontané. Lorsqu'on marche sur la rue, que quelqu'un vient vers nous qui dit « Mon frère, j'ai faim. » Ou bien, il va dire « Monsieur, madame, j'ai faim, j'ai soif. J'ai peur. » Peu importe. Et que là, tu tends la main, et que tu lui donnes de l'argent pour manger, que tu lui dis « Que Dieu te bénisse. » Ou encore que tu tends la main, que tu l'encourages, que tu parles avec, que tu exhortes, que tu lui apportes des paroles d'encouragement, peu importe. Ça, ce sont des œuvres spontanées, des œuvres qui viennent du cœur. Ce qui vient spontanément vient du cœur. Et c'est au cœur que Dieu regarde, et c'est justement ce réflexe que Dieu regarde également aussi lorsque des gens viennent vers nous. Et que très souvent, et là moi-même je me repens parce que ça m'est déjà arrivé, je suis humain, et que des gens viennent vers nous pour nous demander de l'aide et qu'on fait, ah, on passe la tête bien droite comme si on ne les avait pas vus, comme s'ils n'existaient pas, et qu'on les méprise et on les ignore en faisant ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Et il dit maintenant, réveillez-vous l'Église et allez vers ceux du dehors, et apporter un témoignage vivant, spontané de moi-même, comme Jésus avait dit à ses apôtres lorsqu'il a nourri 3000 hommes. Il a dit aux disciples, « Donnez-leur à manger vous-même. » Alors, il n'est pas question ici de dire, « Je vais prier pour toi, pour que Dieu fasse ceci, pour que Dieu envoie quelqu'un vers toi. » Non! Dieu veut que ce soit toi qui se déplace pour aller vers ces gens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci d'avoir écouté ce message. Saint-Esprit, Père éternel, Seigneur Tout-Puissant, merci encore une fois pour ce message. Merci de m'avoir donner cette opportunité de livrer un message avec onction et que toi-même, tu m'as utilisé comme un outil au travers de tes mains. Merci que ta bouche a parlé au travers ma bouche. Merci que tu as maîtrisé ma langue, mes pensées, mes paroles, afin que je puisse dire les choses comme elles sont, avec fluidité, cohérence, puissance. Je te prie maintenant de toucher tous les gens qui ont entendu ce message. Que cette semence puisse germer dans leur cœur, ouvrir leurs yeux, leur conscience, leur esprit, et que lorsque la crise du coronavirus sera terminée, lorsqu'on sera sorti de cette crise, que ce monde que tu es en train de transformer par cette prophétie qui existait déjà depuis 2700 ans lorsque tu as dit à ceux qui désobéissent que tu enverrais la peste, et c'est ça qui se passe, eh bien que ces mêmes personnes puissent aller vers la veuve, l'orphelin, l'opprimé, les endeuillés, ceux qui souffrent, pour les aider de toutes les façons possibles et apporter un témoignage vivant de toi, ô Père éternel. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen et amen.